D'abord, merci de votre invitation. Moi, je ne connais pas tout le monde, tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc voilà, je suis Philippe Fournier et le frère d'Elisabeth. Voilà. Et avec mon épouse Martine, on a créé il y a plus de 30 ans une association chrétienne de solidarité qui s'appelle la GERD. Donc, cette application nous a amené, si c'est vrai, à réfléchir à qu'est-ce que c'était que l'amour du prochain. C'est un thème qui nous est un peu familier. Voilà, cette association, vous la connaissez, je pense, parce qu'elle a aussi un pied-à-terre, enfin, son siège social à Écquevilly, donc en Île-de-France. Et nous sommes dans le Gard, où Pierre-Élisabeth sont souvent venus nous aider. Voilà. Alors, ceux qui m'ont transmis l'invitation, là, m'ont dit de parler, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'amour du prochain, de la philanthropie, avec comment pouvons-nous vivre cela sans esprit de supériorité, d'une façon vraie. C'était le petit sous-titre qu'on m'avait donné. Donc, et on m'avait. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour le plan, vous n'aurez pas le plan à l'écran. Je vais vous le dire. Hein. Je vais faire une petite introduction. Ensuite, je parlerai de qu'est-ce que c'est notre présence dans ce monde. Notre engagement concret, comment se mettre au service. Et puis, on parlera un petit peu de ce que c'est une mission intégrale, où on n'est pas divisé en plusieurs morceaux. Et puis finalement, dans cet amour du prochain, est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne, ou bien est-ce que finalement, tout le monde ne fait pas la même chose? À quoi ça nous sert d'être chrétien, en quelque sorte? Et puis, on fera la conclusion. Donc, ce que je vais essayer de traiter, c'est... quels sont les supports bibliques qui nous permettent d'aller vers cet amour du prochain? Alors, bien sûr, tout le monde connaît ton prochain comme toi-même, mais on va essayer d'aller un petit peu plus dans cette direction. Alors, il m'avait été. Tout d'abord, il faut se dire que les églises évangéliques, je parle dans une église évangélique, là, ont une histoire par rapport à l'amour du prochain. Au 19e siècle, les églises évangéliques ont été très impliquées dans beaucoup de mouvements en faveur des pauvres, l'Armée du Salut qui est née en Angleterre. Vous avez aussi tout ce qui a été fait pour les prisonniers, le secours qui a été apporté dans les bagnes. Vous avez tout ce qui a été fait pour l'éducation populaire avec des créations d'écoles dans des zones rurales où il n'y en avait pas. Enfin, les chrétiens évangéliques ont participé à un grand mouvement d'aide, et puis ça s'est un peu éteint, on a appelé ça le grand tournant, au début du XXe siècle, parce que les chrétiens évangéliques ont été un petit peu inquiétés devant la montée de ce qu'on a appelé le libéralisme théologique, c'est-à-dire que les chrétiens évangéliques se sont concentrés sur le salut des âmes. Parce qu'ils craignaient que ces nouvelles mouvances ne veuillent ne parler du salut que comme un royaume à établir sur la terre, et ne craignaient qu'on perde de vue le salut des âmes. Ça a eu pour effet d'éloigner les chrétiens évangéliques pour longtemps de l'action sociale. Voilà. Et ce n'est que vers la fin du XXe siècle, avec le congrès de Lausanne en 1974, et puis. Ça s'est poursuivi par plusieurs autres grandes conférences et au début du XXIe siècle, l'engagement du cap dans lequel la plupart des confessions chrétiennes évangéliques ont reconnu qu'elles avaient manqué, qu'elles étaient passées à côté de cette invitation sérieuse que la Bible nous adresse de nous intéresser concrètement au bien-être de notre prochain. Et donc dans cette humiliation générale s'est produit un vrai réveil qui n'a pas fini encore de porter ses fruits. Et nous allons voir tout à l'heure, vous pourrez vous dire où est-ce que vous en êtes chacun par rapport à ça. Alors, on m'avait demandé de partir de deux textes bibliques que je vais relire. Tout d'abord, dans 1 Jean 3, les versets 16 à 19. Ce sont des textes qu'on connaît bien. 1 Jean 3, verset 16 à 19. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Tout à l'heure, je reviendrai dans mon point numéro 4. Qu'est-ce que ça veut dire donner notre vie pour les frères et sœurs? Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Ah, notre cœur a besoin d'être rassuré et il le sera par l'action concrète que nous allons accomplir en faveur de celui qui est dans le besoin. Notre cœur sera rassuré. Il ne sera pas rassuré uniquement parce que nous avons un ticket pour le ciel. Mais le texte nous dit, parce que nous agirons en actes, nous serons dans les actes et dans la vérité. Le deuxième texte qui nous a été proposé, m'a été proposé pour partir sur cet exposé, c'est le texte de Jacques, chapitre 2, versets 12 à 18. Jacques, chapitre 2, versets 12 à 18. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud !» Rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Là, il est question de l'action concrète, mais en lien avec la foi et avec la compassion. Donc, on voit que tout à l'heure, on a vu les actes, la vérité, la foi, la compassion. Donc, beaucoup d'éléments s'unissent pour nous stimuler à réfléchir à comment nous allons aider celui qui est dans le besoin, voilà, celui qui est nu, qui manque de la nourriture. Et pour terminer cette introduction, je cite un texte de Dietrich Bonhoeffer. Je citerai comme ça plusieurs chrétiens depuis les années 1900 jusqu'à 2024. Vous pourrez vous y plonger si ça vous intéresse. Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur protestant qui a été exécuté par la Gestapo en 1943. Et il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Éthique ». Et je vous dis cette phrase, « Ce serait un outrage à Dieu et au prochain que laisser l'affamé avoir faim sous prétexte que Dieu est proche de sa misère. » Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. « À cause de l'amour du Christ qui s'adresse à lui comme à moi, je partagerai mon pain avec lui. » C'est préparer le chemin de la grâce que de procurer du pain à l'affamé. Ici, une dernière perspective, l'action, la vérité, la compassion, la foi et le chemin de la grâce. Voilà, des choses qui nous incitent à aller plus loin. On peut dire que cette évocation d'Étrich Bonhoeffer certainement s'inspire aussi des paroles de Jean-Baptiste. On aurait pu les dire, afin que toute chair aperçoive le salut de Dieu. On y reviendra peut-être. Alors, je vous ai dit, j'allais parler de notre présence au monde. Alors Dietrich Bonhoeffer lui-même, dans son livre « Vivre en disciple, le prix de la grâce », dit « C'est en étant pleinement dans ce monde que nous pouvons y vivre comme étrangers. » Parce que si nous nous retirons de manière timorée, supérieure, on m'a dit tout à l'heure dans le sous-titre de l'exposé « Comment nous pouvons faire sans faire de manière supérieure », eh bien si nous nous retirons de manière totalement isolée en pensant que nous sommes une classe à part, eh bien, nous ne vivons pas dans ce que la Bible appelle être étranger dans ce monde. Nous sommes ailleurs, mais nous ne sommes pas ce que nous sommes appelés à vivre, c'est-à-dire à être des étrangers dans le monde. Étrangers dans le monde. Comment y être sans ne pas y être? Alors, pour cela, nous avons besoin de réfléchir à quel type de croyants nous sommes. Je m'appuie là-dessus sur un écrit de André Ponal, qui était professeur à Nogent, à l'Institut biblique de Nogent. Et il a réfléchi à ça depuis longtemps, il a des écrits qui datent de 89, puis il nous avait repartagé ça lors d'un colloque. Alors il nous disait, voilà, est-ce que vous êtes un chrétien conquérant? Vous êtes investi d'une mission divine et vous êtes convaincu du bien fondé de l'éthique chrétienne. Vous aimeriez presque imposer vos idées, en tout cas en un jour d'élection comme aujourd'hui, vous aimeriez voter pour un parti chrétien. Et on a ça peut-être dans notre cœur, et peut-être que certains de nos frères évangéliques américains ont aussi un petit peu ça. Peut-être que vous êtes un chrétien tolérant à l'inverse. À chacun son idée, à chacun son chemin. Et dans une société laïque et pluraliste, eh ben, à chacun son choix. Vous êtes peut-être un chrétien discret. Vous trouvez que le monde est indifférent à l'évangile et vous ne voulez pas vous imposer, mais vous croyez que par votre exemple, les choses se transformeront. Peut-être que vous êtes un chrétien partagé entre l'idéal et la réalité. Vous pensez à ce qu'a dit Jésus, laissez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et voilà, vous aimeriez suivre les enseignements de Jésus, mais en même temps, et donc c'est difficile pour le chrétien qui est partagé entre l'idéal et la réalité, il vit surtout dans le présent, et puis il se dit que le monde est le théâtre d'un combat spirituel, et déjà si j'arrive à vivre ma vie chrétienne dans ma famille et dans le cadre de mon église, ce sera déjà bien. Ou bien un chrétien sur ses gardes. Vous trouvez peut-être qu'il vaut mieux garder vos distances par rapport au monde. Le monde refuse le bien. Il risque peut-être même de vous contaminer, si j'ose dire. Et vous avez une idée pessimiste de l'histoire. Tout ira de mal en pis. Ça dégringole depuis l'origine. Et on ne sait pas jusqu'où on va. Donc, on se tient sur ses gardes. Et puis, disait-il, peut-être vous êtes un chrétien rayonnant, c'est-à-dire que le monde est très sombre, mais Christ vous y a envoyé pour être une lumière. Et vous êtes heureux de saisir toutes les occasions qui se présentent pour partager votre foi. Le chrétien rayonnant croit que le royaume de Dieu est là, et que pourtant il n'est pas là. C'est ce déjà et pas encore, et le chrétien rayonnant se réjouit des occasions de manifester sa foi et de voir les manifestations du royaume. Alors, en fait, nous sommes... Alors vous êtes peut-être reconnu un petit peu dans tout. Hein. Voilà, on n'est pas une étiquette, je suis ça. Mais ça nous interroge. Comment je me vois? Et en réalité, la façon dont nous nous voyons, c'est ce qui va nous permettre de nous engager ou non. Vous avez bien compris. Si j'ai peur de ce monde, ça sera compliqué d'aller vers ce monde. Alors, nous sommes entourés, nous sommes dans un monde de péché, entourés de pécheurs comme nous, en fait, et qui peut-être, ce monde peut me mettre en danger, et puis il se passe toutes sortes de choses. Dans la parabole de l'ivraie, il y a du bon grain, et puis quelqu'un se met de l'ivraie. Bon, alors on est au milieu de ça, qu'est-ce qu'on fait, disent les serviteurs. Et le maître répond, patience, patience, on verra plus tard. En même temps, nous vivons dans un monde, oui, de péché, mais c'est un monde qui est créé par Dieu. Et tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Ils ont été créés comme nous et nous nous complétons les uns les autres. Nous avons besoin des autres. Jésus, il a eu besoin de la femme samaritaine pour boire. L'homme qui était blessé sur le chemin, il a eu besoin du bon samaritain pour qu'on prenne soin de lui, de guérir. Donc nous avons tous besoin, et même Jésus a exprimé ce besoin des autres. Alors est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un monde de péché? Ben, Dieu ne se pose pas cette question, visiblement. Il s'est investi. Et il agit au milieu du péché, et il se sert même de nous. Et il se sert aussi de gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas dans sa famille. Il fait briller, dit la Bible, son soleil sur tous. Il est généreux sur tous. Donc une piste pour l'engagement, l'amour du prochain, c'est de participer au projet créationnel de Dieu. Déjà, nous pouvons retenir cette première idée. Alors, on pourrait encore, pour aller plus loin, c'est que la Bible, en fait, ne nous propose pas de changer ce monde, de déserter ce monde au nom d'une raison supérieure, comme disait Noémie Mekhatchian, mais la Bible nous propose d'habiter ce monde autrement. D'habiter ce monde autrement, c'est l'expression de Frédéric de Conin, dans son livre qui est un commentaire sur le livre d'Ézéchiel. Nous sommes tous des exilés, dit-il. Habiter ce monde autrement, mais oui, ça fera aussi évoluer et moi et ce monde. Être une présence qui manifeste la différence, grâce à quoi? Grâce à l'amour. Cherche la paix de la ville où tu as été transporté, disait Jérémie. Bâtissez des maisons cultivées, car dans la paix de cette ville sera aussi votre paix. C'est l'engagement concret. Il y a donc finalement deux visions de l'éthique chrétienne. Une éthique de rupture et puis une éthique d'engagement dont j'ai essayé de vous montrer sur quoi elle s'appuie. Ah oui, vous pourrez me dire, mais il y a la laïcité. Mais la laïcité, dans notre pays, c'est un espace de liberté qui est offert aux diverses religions. Et si nous voulons respecter la liberté, nous devons d'abord être au clair sur le sens de notre présence au monde. Sinon, nous nous sentons paralysés par la laïcité. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par cette question. Et nous venons de voir que nous ne cherchons pas à transformer le monde, mais nous cherchons à en bénir ses habitants. Nous cherchons à répandre la bénédiction. Il y a donc, on pourrait dire, une dimension citoyenne, fraternelle, dans l'action chrétienne. Elle trouve sa place donc, au sein de la laïcité, parce qu'il y a une dimension citoyenne, fraternelle, dans l'action chrétienne. Voilà, notre présence au monde. Alors, quel engagement concret ? Quel engagement concret ? Eh bien, il y a d'abord une chose, c'est que nous allons donner. Et dans le livre des Actes, au chapitre 20, alors que l'apôtre Paul va quitter vers la fin de son service, et il quitte les anciens d'Éphèse, donc c'est un moment un peu émouvant, un peu solennel aussi, et ils sont retrouvés en larmes, en se prenant dans les bras, et quand même on est un peu attentif aux dernières paroles d'un serviteur de Dieu. Et il dit dans Actes 20, au verset 34, « Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie. » Et la vie de ceux qui n'en ont pas. Il s'est donné du mal. Il s'est donné du mal pour lui, pour la vie de ceux qui l'accompagnaient, et pour que l'Évangile soit libre de tout frais. Et je voulais toujours montrer, dit-il, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Dernier message de Paul. Je vous ai montré que par ma fatigue, il faut faire ça pour aider les pauvres. Car il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Et là, Paul... on fait une petite blague là parce qu'en fait c'est écrit nulle part dans l'évangile, donc sans doute c'était une parole de Jésus qui s'était répandue parmi les disciples mais qui n'est pas écrite dans l'évangile mais qui devait être connue de tous au point que Paul leur dit il faut rappeler ce que le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole qui est presque devenue un proverbe parmi nous dans ce monde qui se dit même on est certes ne sont pas chrétiens. Donner, première chose. Donner et recevoir. Jésus, il a invité aussi ses disciples à faire ça. Vous savez, les fameuses scènes, ce qu'on a appelé les multiplications des pains. Voilà, enfin, cette abondance de générosité qui a été manifestée par Jésus. Et c'est raconté dans Luc, dans Matthieu, dans Marc, voilà. Et les 12 apôtres s'approchent de Jésus, lui disent « Renvoie les gens !» Mais c'est vrai, quand même, c'est pénible. Vous voyez, tous ces gens qui sont là et qui attendent qu'on leur donne, enfin, c'est espèce de mendiant, ils ont qu'à se débrouiller, quoi. Et puis, ils trouveront là un lieu pour loger, quelque chose à manger. Déjà, on leur a annoncé l'évangile, on a prêché, on va encore en plus leur donner à manger. Enfin, on a fait l'essentiel, quoi. Et en plus, nous sommes ici dans un lieu désert. Donc, il n'y a pas de solution. Et Jésus leur dit, vous savez ce qu'il a dit, hein. Il a dit, vous. Donnez-leur. Vous, donnez-leur. Donc il y a quelque chose qui doit s'accomplir et Jésus, ça ne lui suffit pas d'avoir prêché. Et vous savez que dans les évangiles, des fois, Jésus il a prêché, puis donné à manger, et des fois il a donné à manger, puis il a prêché. Ça se passe des fois dans un sens ou dans l'autre. C'est à nous de comprendre ça. Alors, la base de l'action, bien sûr, c'est l'amour. L'engagement concret, c'est ça. J'aime bien citer, j'avais prévu voilà, une série de versets, mais j'aime bien citer... Quel est le reproche que la Bible fait à la ville de Sodome ? Sodome, qui a donné lieu à un nom propre si triste. Eh bien, le reproche qui est fait à la ville de Sodome, ce n'est pas la conduite sexuelle. Il est écrit dans le prophète Ézéchiel, « Sodome, je lui reproche son orgueil, son abondance et son insouciante sécurité. » et qui ne s'est pas soucié de l'affligé et du pauvre. Ça veut dire que le mépris vis-à-vis de notre concitoyen, de notre contemporain, elle nous amène après au désordre. Parce qu'il y a une cohérence, une continuité
entre le regard de dignité que nous portons les uns sur les autres et notre conduite morale. Orgueil, abondance, insouciance, sécurité, sans se soucier de la figure du pauvre, Ézéchiel 16. Tous les prophètes reprochent au peuple de faire des sacrifices, c'est-à-dire donc de l'adoration, des cultes, si vous voulez, et puis d'écraser les veuves, les orphelins, les étrangers, les pauvres. On peut faire un très beau culte, et puis un cœur énervé à propos des migrations. On parlait tout à l'heure des migrations. Ah, il y a encore un Jésus Christ. Nous, on est occupés à célébrer le Seigneur. Vous n'avez pas de bonté et de miséricorde. Peut-être quelqu'un est conduit à la mort, dit le livre des Proverbes. Et tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Et puis, dans la compagnie de Jésus, quelque chose de très touchant, c'est que Jésus leur dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. D'ailleurs, même Judas, on aurait pu utiliser, on aurait pu le donner aux pauvres. Donc ça veut dire que dans la compagnie de Jésus, on se souciait habituellement des pauvres. Alors que, quoi, ils étaient riches? Ben non, ils n'étaient pas riches. Parce que c'était eux-mêmes, ils bénéficiaient de dons qui étaient faits par, en particulier, des femmes qui les accompagnaient, qui leur faisaient à manger, etc., qui les assistaient de leur bien. Et pourtant, ils se souciaient des pauvres. Donc la question, ce n'est pas d'être riche pour pouvoir aider les pauvres. Parce que la compagnie de Jésus, c'était une compagnie de pauvres, et ils aidaient les pauvres. Jésus leur dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Jean 12. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'il faut, c'est par des paroles ou c'est par des actes? Grand débat parmi les chrétiens, savoir si c'est la conduite, si c'est les mots, etc. Dans l'Épître à Tite, il nous est dit que notre, chapitre 2, verset 10, il nous est dit que notre bonne conduite est un ornement pour l'enseignement de Dieu. Orner l'enseignement de Dieu. Faire honneur à notre Dieu Sauveur par notre comportement. Donc ça veut dire que les œuvres sont une parure à l'enseignement de Dieu. Tite 2, verset 10. Mais Jésus avait dit déjà dans l'évangile de Matthieu d'accomplir des bonnes œuvres, que votre lumière luise devant les hommes, et s'ils voient vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu. Ils ne vous glorifieront pas vous, mais ils glorifieront Dieu. Alors, on va donc faire le bien pour la gloire de Dieu. On ne fait pas du bien pour que la personne se convertisse. C'est ce que j'appelle le marchandage, j'en reviendrai tout à l'heure. On fait le bien pour la gloire de Dieu. Voilà. Et Saint-Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Si on contribue à permettre que quelqu'un se redresse, et Jésus il a fait ça, sa vie, eh bien, c'est contribuer à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, un de nos amis, la dernière Lilion, qui fait partie de l'association Le Sel, que vous soutenez peut-être, ou que vous avez peut-être déjà vu dans des conventions chrétiennes, il nous disait, Dieu est amour, peut-être ça peut se dire sans parole, par votre action. Parce que vous reflétez la générosité divine par, la collecte pour les banques alimentaires, parce que vous visitez des malades, parce que vous êtes un aidant, vous êtes un proche aidant auprès de personnes, et vous démontrez votre engagement comme ça, concret, très fort, c'est très touchant. Donc Dieu d'amour peut-être va se montrer sans parole. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, peut-être là, il faudra quelques paroles. Et cet équilibre qu'il manifestait est assez intéressant. C'est-à-dire, tout dépend ce qui va être communiqué entre nos actes et nos paroles. Donc, le respect de l'autre implique de ne jamais pervertir l'aide par un marchandage évangélique. C'est pas je te donne à manger puis voilà l'évangile. Ça nécessite une approche très, très respectueuse. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on arrive vers la fin de ce paragraphe, c'est l'aide au prochain n'est donc pas une option de l'évangile, elle en est une dimension constituante. Voilà, c'est partie de l'évangile. Voilà. Alors, il est vrai que autrefois on parlait beaucoup de l'amour et de la charité. Puis maintenant la charité n'est plus trop en odeur de sainteté dans notre monde, parce que la charité, elle a justement fait un peu de marchandage évangélique. C'est-à-dire qu'on faisait de la charité puisque ça nous apportait une bonne image. Et malheureusement, le christianisme a reflété un peu ça. Et puis, il prenait en otage les gens. Mais c'était une autre époque. Donc, ce n'est pas une critique que je fais, mais la société a évolué. Si vous visitez dans les hôpitaux, il y avait des croix au-dessus de tous les lits. Voilà, on invitait les gens à se mettre en relation avec Dieu, en même temps pour les soigner. Enfin, voilà. On a fait ça, et heureusement, les chrétiens ont fait ça. C'est eux qui ont créé les premiers hôpitaux qu'on appelle les hôtels Dieu. Bon, voilà. Aujourd'hui, notre société a évolué, et donc, on est passé à ce qu'on appelle le respect de la dignité de la personne humaine. Voilà. Cette transition fait l'objet d'une conférence de philosophe d'éthique, Eric Fiat. Et le respect de la dignité de la personne humaine, c'est quelque chose de très important. L'Église catholique vient de publier un ouvrage sur cette dignité intouchable. Voilà. Et donc, c'est important. Mais c'est peut-être pas tout à fait équivalent de parler de l'amour et de la dignité de la personne, du respect de la personne humaine. Vous savez que l'amour, il a quelque chose d'inégal. Le texte qu'on a lu au début, c'est quelqu'un qui a les biens et quelqu'un qui meurt de faim. Donc, vous avez les biens et l'autre l'a pas. Il y a quelque chose d'inégal et qui pousse à aller vers l'autre. L'autre pourra peut-être rendre à quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelque chose d'inégal et puis en même temps de gratuit. Tandis que dans le respect de la dignité de la personne humaine, c'est une exigence de justice. Et la justice, elle est préoccupée d'égalité, de droit égal pour tout le monde. Le symbole de la justice, c'est une balance. Hein, d'accord. Bon. Alors, il nous disait peut-être que sans justice, peut-être qu'on pourrait tenir le coup avec de l'amour, si on était capable d'avoir un amour infini. Mais sans amour, nous serions écrasés par la justice. Donc l'un n'est pas équivalent. On ne peut pas dire, disait-il, que l'amour et la charité ont été remplacés par la justice et l'exigence du respect. L'un ne se fond pas dans l'autre. On a besoin, oui, de cette exigence de justice, mais on a besoin aussi de cet amour dans cette société. Alors, dans un livre tout récent que vous avez peut-être lu, qui est écrit par Marie Grand, qui est une prof de philo, là, qu'elle vient de publier en 2024, « Géographie de l'amour », qui est un commentaire sur, enfin un commentaire, une réflexion sur la parabole du bon samaritain. Tout le monde connaît la parabole du bon samaritain, ou bien on la relit, ou... voilà, oui, je peux la relire peut-être, je ne sais pas. Ça vaut toujours le coup de se replonger, on va en reparler. C'est dans le livre Évangile selon Luc, au chapitre 10, et au verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais ça et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent. Ils le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain... donc c'est un étranger par rapport aux Juifs, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. C'est un texte célèbre qui a fait l'objet de beaucoup de peintures, d'œuvres d'art, et Marie Grand se penche en particulier sur un des tableaux qui a été fait par Rembrandt, dans lesquels... elle met l'accent, enfin, voit beaucoup, enfin, on voit évidemment le blessé qui, est, voilà, et qui entre et qui va arriver dans l'auberge. Et dans l'auberge, on voit donc le samaritain et l'hôtelier qui sont en train de discuter. C'est assez rare que le point de vue soit mis avec accent sur cette discussion entre le samaritain et l'hôtelier. Alors tout d'abord, il faut remarquer que celui qui est blessé, on ne sait pas qui c'est. C'est un anonyme. C'est un peu inquiétant, les anonymes. Il y en a beaucoup dans votre ville, hein, si c'est sûr. Moi, j'habite à la campagne. C'est moins impressionnant. Il y a un peu moins d'anonymat, quoi. L'anonymat, ça fait peur. Hein. Du coup, on ne se dit plus bonjour. Vous savez, Martine, la première fois qu'elle est venue dans le métro, elle a dit bonjour. Enfin, presque. Voilà. Et puis les gens vous regardent en disant, elle veut faire la manche. L'anonymat, ça fait peur. Et donc, c'est quand même singulier que cette histoire nous parle de quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, quoi. C'est peut-être l'étranger, justement. On ne connaît pas sa culture. Vous croyez qu'on peut vraiment l'aider? On ne se comprendra jamais. Donc, et puis finalement, je ne sais pas comment faire. Il vient d'un pays chaud, je ne comprends pas sa langue. Et puis, je suis un peu occupé. Donc, je vais continuer ma route. Voilà.
C'est moi.
Le lévite, le prêtre. Fiac disait, ils n'ont pas accepté de se laisser dérouter. Parce que c'est déroutant de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est vrai. Ils n'ont pas accepté de se laisser dérouter. Et nous, c'est difficile parce qu'on a des conceptions de se laisser dérouter.
Le deuxième personnage, c'est ce Samaritain. C'est un étranger. Un deuxième, encore un qui est bizarre.
Vous avez lu dans la presse, on a vu, hein, des fois, vous avez des migrants qui ont sauvé des personnes chez nous. Lorsqu'il y a eu un incendie, là, il y a un étranger qui a grimpé par.
Ah oui, donc c'est un étranger qui est venu au secours de quelqu'un des nôtres. Enfin bon,
ça peut arriver. C'est écrit. Ça m'arrive.
Et puis, elle attire notre attention sur ce dialogue qu'il y a entre ce Samaritain et l'hôtelier. Le Samaritain, on peut dire, il est comme Jésus était, il est rempli de compassion. C'est une expression qu'on trouve aussi pour Jésus, ému de compassion. Donc, il y a là la charité compassionnelle. Et puis, il l'amène à l'hôtelier. Et on pourrait dire que ce qu'elle nous propose de voir, c'est la charité institutionnelle, la charité organisée. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et on a besoin de discuter les uns avec les autres. Vous allez faire ce qui est en votre pouvoir, et puis vous allez peut-être accompagner vers les services sociaux. Vous allez accompagner vers un médecin. Vous allez accompagner vers un service d'hébergement. Vous allez accompagner, voilà, ou bien vous êtes un proche aidant. Et comme il y en a besoin beaucoup aujourd'hui auprès de personnes handicapées, de personnes âgées, etc., c'est très fatigant, c'est épuisant, parce que vous êtes mû par la charité compassionnelle, et puis vous avez besoin des mesures que les départements, l'État, etc., vont mettre à votre disposition pour avoir du relais. Voilà. Et cette discussion du relais, elle se passe avec de l'argent. Ben, parce que c'est comme ça. Dans notre vie, nous avons besoin aussi de ces outils tout à fait concrets de la vie de tous les jours, et lui a donné un peu d'argent pour se poursuivre. Donc, en même temps, on pourrait dire que la société organise ça, mais la société, elle est face au fait aussi qu'il y a des brigands.
Et qu'est-ce qu'elle a fait, la société, pour les brigands? Là, on ne sait pas trop. Hein. C'est une interpellation. Et dans l'exigence de justice, il faut peut-être réfléchir aussi à se dire, mais tu sais, comment ça se fait qu'il y a des brigands qui viennent assassiner les gens sur le chemin? Voilà. Sinon, on fait que, comme on dit, de réparer les pneus crevés au lieu d'enlever les clous qui sont sur la route. Voilà.
Donc, et finalement, qui est mon prochain? Et je n'ai pas répondu à la question.
Il raconte une histoire, parce qu'il aimait bien faire ça,
mais quand même, il y a quelque chose qu'il a apporté. Il n'a pas dit qui est mon prochain, mais à la fin, il a dit « De qui tu vas te faire prochain ?»«
De qui tu vas te faire prochain ?» Il a répondu par une autre interrogation « De qui tu vas te faire prochain ?» Voilà.
Peut-être ça. Alors, il n'y a pas longtemps, on était à la distribution, inauguration de la Bible pour les sans-abri. La Bible de la rue, comme ça s'est appelé. Et on était avec Thierry Sapet et puis avec Anne Proin, et voilà, plusieurs membres d'associations. Et là, on a entendu le témoignage de la mission évangélique parmi les sans-abri, où un certain nombre de personnes vont distribuer l'aide à ces personnes qui sont dans la rue.
Et c'était très touchant de voir justement comment s'approcher, comment se faire prochain, ne pas aller directement, t'as besoin de quoi, tu veux, non. Pas lui taper sur l'épaule parce que tu vas effrayer, il va croire que tu veux l'agresser, ou c'est quelqu'un qui a déjà été agressé dans sa vie et tu le prends déjà comme ça, non, 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 non. Tu veux prier avec lui, non mais attends, tu pries, mais tu sais ce que c'est qu'il voudrait, lui. Il va te dire oui, je veux bien compris, mais tu vas prier et puis tu n'as pas pris le temps de savoir pour quelle chose il en est compris. Voilà. Toute une délicatesse qui nous était témoignée par ces personnes. Vraiment, c'est magnifique. Et puis en même temps, ben voilà, il y a beaucoup de bénévolat, mais en même temps, il y a besoin de ce dialogue avec l'institution pour secourir. Voilà. Alors voilà, on va agir dans la gratuité parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il n'y a pas de tri. Hein. Voilà. Et puis, toujours cette phrase étrange, jette ton pain à la face des eaux. Une phrase qui ne veut rien dire, puisque si tu mets du pain dans l'eau, il va devenir, il va partir en petites miettes. Et lui, il dit, après des jours, tu le retrouveras avant. Ça veut dire que tu fais des choses un peu folles, et tu crois quand même que ça va servir. Voilà. Et tu ne sais pas toujours à quoi. Et puis, ce n'est pas la culture du résultat, si on fait dans la gratuité. Alors, il y a combien de chrétiens, combien de personnes qui sont devenues chrétiens grâce à votre action? Combien de conversions? Mais vous trouvez ça où dans l'évangile? Le calcul. Le calcul. Dieu nous a aimés sans mesure. Je ne t'ai pas aimé parce que tu étais ceci ou cela, dit l'Ancien Testament. Je t'ai aimé parce que tu étais le plus petit même. L'amour de Dieu est entièrement gratuit. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on allait se convertir. Il nous a aimés. Donc, notre société, le christianisme est gangréné par ça, mais notre société aussi, puisque vous savez, on évalue tout, il faut faire des rapports, des fichiers Excel, des machins, etc. Donc, l'évangile nous sort de ça, nous fait parler autrement. Bon, allez, engagement concret, voilà. Quelques mots quand même sur se mettre au service et donner sa vie. Parce que c'était le texte du tout début, nous devons donner nos vies pour les faire. Parce que là, on commencerait à dire, il va falloir faire ça, puis faire ça, puis faire ça, et voilà, qu'est-ce que ça veut. Alors, on appuie sur un commentaire qui a été fait par le pasteur François Bergouillan, à Lézan, dans notre village, où il attirait notre attention d'abord, premièrement, comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Donc l'amour, et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc la chaîne de l'amour, elle part de Dieu. Donc l'amour, il relève, l'amour évangélique, il relève du divin. Voilà. Le sujet qu'on m'avait proposé, amour et philanthropie, on va lui venir, mais l'amour dont nous parlons là, il relève du divin. La philanthropie, c'est l'amitié pour l'homme. Hein? Philéo, anthropos, c'est l'amitié pour l'être humain. C'est très bien, heureusement qu'on a la philanthropie. Nous ne nous situons pas en dehors de la philanthropie. Mais le christianisme, c'est une source, l'amour qui relève du divin. Bon. Alors. L'amour, c'est un thème général de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, avec ce fameux texte d'un Corinthiens 13 qui nous dit que l'amour, c'est le chemin excellent et que même sans l'amour, nous ne sommes rien, dit-il. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Voilà. Puis c'est repris dans l'Épître aux Philippiens, considérez l'autre supérieur à vous-même, autrement dit, il y a un respect infini, la dignité de la personne humaine, dont la source est dans l'amour, pour l'autre, et puis aime ton prochain comme toi-même, nous sommes appelés à voir l'autre comme un autre moi-même. Alors, je pense que comme ça fait plusieurs fois que vous avez des interventions sur le sujet de l'amour, vous êtes tous des savants sur les mots que la Bible emploie pour parler de l'amour. Hein. Bon, donc il y a le désir, voilà, eros, il y a l'amitié, on pourrait dire, philéo, et puis il y a l'amour agapé, voilà, que certainement vous avez entendu parler, qui est un amour désintéressé, c'est l'amour divin. Il est sans jugement, il laisse une place à l'autre, il est inconditionnel. L'amour de Dieu n'est conditionné par rien. Alors, ce n'est pas une passion, ce n'est pas seulement une amitié pour l'humanité, une philanthropie, mais c'est une autre façon de voir l'autre. Nous sommes placés devant l'invitation à aimer l'autre comme Dieu m'aime. Alors, avec nos limites, hein, on est bien d'accord. Et si nous faisons ça, c'est une façon d'aimer Dieu, dit l'Épître de Jean. Voilà. Donc, c'est accéder à une autre façon de vivre. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie ou qui se défait de sa vie, comme on le traduit parfois pour ses amis. Alors, le mot vie ici, c'est le mot psyché. C'est l'être avec toutes ses émotions, toutes ses passions, la personne tout entière, le ciel, sa volonté, la force de vie. Alors, laisser sa force de vie. Donner sa vie, le mot qui est là, donner, qu'on traduit parfois se défaire, c'est un mot qui veut dire placer, poser, donner, servir. Placer son énergie vitale au service des autres. Donc, bien sûr, ce texte fait aussi allusion à l'offrande faite par Jésus-Christ qui a donné sa vie. Mais quand il nous dit, de manière générale, nous aussi nous devons donner nos vies pour le faire, ça ne veut pas dire forcément qu'il va falloir qu'on en meure. Ça veut dire, personne n'a plus grand amour que celui qui met sa vie, son énergie vitale, ça c'est toute notre vie, notre énergie, notre force, au service de nous, des autres, au service du monde, pour donner ou redonner la vie à nos contemporains. Ça vous va? Voilà, je suis à mon point 5, voilà, la mission intégrale. Si vous vous intéressez à la mission intégrale, il y a deux livres qui ont été publiés par les éditions Excelsis en 2017 et en 2023. J'ai fait une petite contribution dans le premier, mais disons, vous verrez des regards historiques, philosophiques, bibliques, théologiques là-dessus. Alors, de quoi ça vient? Ça vient d'observations très concrètes, enfin, c'est né grâce à la réflexion des chrétiens, des théologiens d'Amérique du Sud, surtout. Et puis, ça a traversé beaucoup de... la réflexion de beaucoup de mouvements, et par exemple, je peux vous parler de, vous connaissez l'œuvre qu'on appelle Portes Ouvertes, qui distribue des Bibles dans les pays où c'est interdit, où les chrétiens ne peuvent pas se venir, etc. Et donc, c'est une œuvre qui a été faite par Frère André, et qui avait vraiment cette vocation de distribuer la Bible. Voilà. Puis un jour, les chrétiens pakistanais, auxquels ils avaient distribué des Bibles, voilà, des personnes qui s'étaient converties, un jour, ils ont dit aux délégués de Portes Ouvertes, vous savez, c'est très bien ce que vous faites, merci beaucoup. Mais chez nous, les gens auxquels nous aimerions distribuer des Bibles ne savent pas lire. Parce que c'est des catégories méprisées. Et puis même parmi nous, les chrétiens sont discriminés. Et ils ne peuvent pas aller à l'école ou à l'université. Ils se cachent un peu dans leur foi. Et donc, en fait, beaucoup d'eux ne sont pas assez instruits. Et à ce moment-là, Portes Ouvertes. Donc l'objectif, c'était distribuer des Bibles, c'est dit. Mais en fait, il faut qu'on donne aux gens les moyens de lire, les moyens de s'instruire. Et ils ont intégré, hein, mission intégrale, cette dimension concrète de leur action en l'associant à l'Évangile. Voilà. Ça a transformé nos visions. Hein, voilà. Donc, ça veut dire qu'autrefois on disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » On a appelé ça le grand mandat. Enseignez-leur tout. Vous y arrivez, vous? Enseignez tout ce que Jésus. Toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, nous dit le livre des Actes. Panique. C'est pour ça que Jésus, il ajoute tout de suite après, je suis avec vous tous les jours. D'accord. On comprend que ça se termine comme ça. Sauf qu'on a oublié le tout. Et on a dit, le grand mandat, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais le tout, c'est ce qu'il a été. Alors, peut-être que ça correspond à cette réflexion dont je vous ai parlé, la déclaration de Lausanne, l'engagement du cadre. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de théologiens ont dit, mais en fait, peut-être que le grand mandat, c'est ce moment où Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Parce que si on entend bien ce tout que je disais tout à l'heure, alors tout va bien, c'est Matthieu 28, on pourrait dire c'est le grand mandat, à condition qu'on lise bien l'ensemble. Mais... peut-être que si on prend cette simple phrase, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ qui a été envoyé, il n'a pas été envoyé pour annoncer l'Évangile. Il n'y avait pas un Jésus qui prêchait, un Jésus qui guérissait, un Jésus qui donnait à manger, un Jésus qui priait, un Jésus qui adorait, un Jésus qui se reposait. Enfin, c'est la même personne, vous êtes d'accord? Et nous sommes invités à être des Christ, comme le Père m'a envoyé. L'unité de notre être dans l'Évangile qui est bonne. Voilà, on pourrait dire que c'est ça, ce à quoi nous sommes appelés. Et les conséquences, eh bien, ça fait des conséquences importantes. Autrefois, on avait une église traditionnelle, était un peu fermé par rapport au monde, mais qui était missionnaire, bon, qui envoyait des gens. Voilà. Envoyait des gens, et puis après, on est passé à l'église dite évangélique, où là, on a dit aux gens de venir, puis on a organisé des choses, on a changé les chants, on a introduit la musique, on a essayé de s'adapter, enfin, etc. Et puis, la mission intégrale, c'est réfléchir. Jésus, il n'a jamais dit d'organiser les trucs où les gens seraient amenés à venir. Il a dit, allez, partez. Donc c'est le mouvement inverse. Et donc, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'église missionnelle. Certains d'entre vous ont peut-être lu les écrits de Timothy Keller, qui est un chrétien qui nous a tous beaucoup aidés, qui est un chrétien américain qui a écrit beaucoup, et entre autres, il a écrit une église centrée sur l'évangile. Voilà, donc dans cette nouvelle vision, cette vision, eh bien, nous sommes appelés à une vie qui est fluide entre l'intérieur de l'Église, l'extérieur de l'Église. Hein. Voilà, tous les chrétiens doivent être équipés dans ces conditions pour être réellement chacun mission. Il y a un livre qui a été écrit par un prêtre, « Je suis mission ». Ce n'est pas « Je pars mission », »,« Je suis mission ». Il n'y a pas une mission de l'Église, il y a une mission de Dieu qui agit dans ce monde. Et nous entrons par la mission de Dieu. Voilà. Donc c'est une communauté de service qui bannit l'individualisme, hein, qui pourrait régner dans ce monde. Donc l'Église est le reflet de tout à fait autre chose. Elle n'est pas non plus le reflet d'une satisfaction groupale, que chez nous c'est quand même mieux. Non. C'est une communauté de service. Voilà. Qui est une communauté qui est à la fois poreuse, ouverte. Et je vais m'appuyer là maintenant sur, pour entrer dans cette vision, sur le texte de Luc 10, les versets 2 à 11. Je vais vous les lire. Comment nous allons partager cette bénédiction de Dieu ? La moisson est abondante. C'est Luc 10, verset 2. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les brebis du Seigneur, l'image qui nous parle. Ne portez ni bourse, ni sandales, ni sac. Ce ne sont pas les méthodes du monde. Ne vous conformez pas à ce présent siècle, tout calculé à l'avance. Dit l'apôtre Paul, l'apôtre Romain, ne vous conformez pas à ce présent siècle. Mais offrez vos corps, sacrifice vivant. Donc, prenez pas ni bourse, ni sandales, ni sandales, ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix. Paix à cette maison. Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Jésus est entré dans beaucoup de maisons. C'est intéressant, ça. Il a mangé chez beaucoup de gens. Chez des gens pas recommandables aussi. Il leur a dit même, il faut que je vienne aujourd'hui manger dans ta maison, il a Azaché. Le gars qui était un peu mal perçu par ses voisins. Il faut la solidité, hein, je fais une petite parenthèse, là. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'avoir un petit christianisme voilà, de charité, puis c'est sympa. Quand on va, comme vont là, une œuvre Hope and Joy dans notre région, là, sur les chemins pour rencontrer des femmes qui sont livrées à la prostitution, qui vont dans des endroits un peu sordides. Mais il faut quand même que notre foi soit solide. Il ne s'agit pas de dire, ah ben voilà, c'est l'amour à l'eau de rose. Non. Il faut que dans le christianisme d'aujourd'hui, notre foi, elle repose sur des fondements solides. Sinon, soit on se réfugie contre nous parce qu'on a trop peur, soit on se laisse entraîner. C'est vrai. Alors, entrez. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrez, vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Et pas du tri. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Que ça veut dire? Ça veut dire que, autrefois, quand on était accueilli, on lavait les pieds de celui qu'on accueillait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dire à la fin cette parole? Ça veut dire, bah, vous ne m'avez pas reçu, apparemment vous n'en voulez pas. Ça s'appelle tendre la joue. Ce que Jésus disait, tendre la joue, ça ne veut pas dire frappe-moi, ça veut dire voilà, c'est ça que tu es en train de faire. Voilà, vous n'en voulez pas en fait. Alors, c'est une première chose. Et puis vous ajouterez Toutefois, sachez-le, le royaume de Dieu s'est approché. On ne termine pas en disant aux gens, bon, ben alors vous n'en voulez pas. Non. Donc, il semble que vous n'en vouliez pas. Mais pour vous, le royaume de Dieu s'est quand même approché.
C'est un texte formidable. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Il dit, la dimension sociale, demeurez dans cette maison. S'il y a là un ami de la paix, demeurez-vous. On en discutait hier avec Martin. C'est pas si facile de devenir ami. Donc, ça ne veut pas se faire en une minute. C'est un voyage qu'il nous raconte, ce texte. Un voyage. Devenir ami avec les gens du monde, ce n'est pas tomber dans l'amitié de ce monde dont l'apôtre Jean, contre lequel l'apôtre Jean nous met en garde, car l'apôtre Jean est l'ennemi contre Dieu. C'est constituer, c'est voir ce qui nous rapproche de l'autre, au point qu'il y ait ce lien, cette relation. Voilà. C'est vrai que il y a des gens qui sont accueillis dans la pension de famille, dans notre association à Lézan, là. Et pour certains, nous sommes devenus amis. Certains ne sont pas encore croyants, pas encore, peut-être qu'ils le deviendront. Mais ça nous touche ce qui leur arrive. Et je pense qu'il y en a un, je pense Denis, hein, monsieur Denis, il dit ben moi je crois pas, hein, mais ce que fait Martine, ça me plaît bien. Donc il y a quelque chose qui se crée dans cette espèce d'amitié. Demeurez dans cette maison. La deuxième dimension, c'est manger et buvez, c'est la dimension culturelle. Ça veut dire que. Il y a des gens qui ont une habitude de vie qui est complètement différente de nous. Et alors, vraiment, complètement. Et donc, manger et buver, c'est accepter d'entrer un petit peu dans ce qu'est la vie de l'autre, quoi. Qui passe avec sa télé allumée 20 heures sur 24, ou bien qui, je ne sais pas, qui a des activités qui sont complètement différentes de la mienne, par exemple. Manger et buver, la dimension culturelle. Ensuite, il y a la dimension, on pourrait dire, surnaturelle, guérissez. Guérissez. Guérissez quoi? De quoi nos contemporains sont blessés? Est-ce que vous le savez? Parce que tout à coup, vous allez penser, ah ben, il a la jambe cassée, ou je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire comme le Samaritain, amener à l'hôtelier, on peut amener à l'hôpital, on peut amener quelqu'un. Mais on a des médecins, on a des médecins compétents. Hein. Bon. On a des services de soins, on a toutes sortes de... Voilà, donc on n'est pas à l'époque de Jésus. En fait. Mais en revanche, nos contemporains sont blessés. Et moi, est-ce que je sais de quoi ils sont blessés? Est-ce que je suis prêt à m'équiper pour aider face à ces blessures de nos contemporains? Blessures de l'amour, blessures de la relation, blessures de l'histoire de vie, blessures... Voilà. Guérissez. Et puis, à la fin, la dimension verbale, dites-leur. Quand ce chemin s'est accompli, ben alors dites-leur. Donc c'est un processus qui a commencé par prier, intercession, puis la sensibilisation socioculturelle, l'intégration à la dimension spirituelle. Vous retrouverez ça dans le livre de Penche aussi qui s'appelle « Tu seras une bénédiction ». Voilà, alors mon dernier... Ça va? Ça va, vous n'êtes pas perdu ou lassé? Bon. Mon dernier chapitre, c'est « Y a-t-il une spécificité chrétienne ?» C'est quand même tout ce que je raconte. C'est partagé par beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'œuvres, des ONG, des associations qui font des choses formidables. Et vous vous dites, bah alors en fait, bon, le partage, pas seulement chrétien, non, pas du tout. Le partage, c'est pas chrétien. Le partage, beaucoup d'associations sont promouvoir le partage. Les partis politiques aussi sont basés sur la notion de partage. Bon, ah non, là, c'est le partage. C'est quoi qui fait d'être chrétien? Le fait d'être chrétien, c'est d'entrer dans le renversement des valeurs. Renversement des valeurs. Quoi? À cause de Jésus. Nous, on n'est pas attachés à des valeurs. Souvent, on parle des valeurs chrétiennes. C'est vrai, il y a des valeurs chrétiennes. Hein. Mais on n'est pas attachés aux valeurs chrétiennes. On est attachés à Jésus-Christ. Il nous a introduits là-dedans. Et il nous a introduits dans un renversement. Si moi, le Seigneur et le Maître, dit-il, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous montrer un exemple. Pour que vous agissiez comme j'ai agi. Et si vous savez ça, vous êtes heureux à condition de mettre en pratique. Donc, il ne s'agit pas de renier ce qu'on est. Jésus dit, vous m'appelez Maître Seigneur, vous faites bien, car je le suis. Donc, dans ta place, dans ta position, il ne s'agit pas de dire, je suis comme toi, ou je suis... Enfin, non, on n'a pas tous la même place. On a peut-être une mission, un rôle à accomplir, quelqu'un. Mais, on va se mettre au pied. Ça, c'est difficile. Voilà, facile de prêcher, là, mais... voilà. comment j'estime ce que l'autre. Alors, des fois, quand on était en réunion, enfin à l'époque, quand je participais aux réunions d'équipe, ceux qui sont dans les équipes qui s'occupent des personnes en difficulté, ben, des fois c'est difficile. Il y a des personnes qui nous montrent surtout leurs épines, par exemple. Et des fois, alors pour encourager l'équipe, des fois je disais, en quoi cette personne que nous accueillons, elle nous révèle, en quoi elle a une beauté. C'est ça, en quoi elle a une beauté. Au-delà de la difficulté qu'elle nous présente, parce qu'elle est antisociale, parce qu'elle dit non à tout ce qu'on lui propose, enfin, c'est difficile. Et vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Ça, c'est un principe impossible de se faire élire avec ce principe. D'accord ? Pour les élections, voilà, devenez pauvre et comme ça, voilà, vous deviendrez riche. Les pauvres vont nous faire devenir riches. Enfin, bon, c'est un programme politique à la mer. Mais d'accord, c'est le programme de Jésus. Pourquoi nous sommes devenus riches par la pauvreté de Jésus ? Parce que Jésus ne savait pas. Jésus s'avançait vers les gens sans savoir. Nous, nous approchons vers les gens en sachant. Il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça, il aurait qu'à faire telle démarche, il n'a qu'à poser sa demande de logement, il n'a qu'à. Enfin voilà, on sait tout ce qu'il faut que les gens fassent pour être heureux. Et donc il n'y a plus de place. Parce que nous savons. Donc comment je peux m'approcher des gens sans savoir? Ça s'appelle l'écoute. L'écoute, c'est-à-dire écouter, sans déjà être en train de me dire qu'est-ce que je pourrais répondre. Écouter, c'est écouter. Et par sa pauvreté, Jésus qui ne savait pas demander aux gens qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse. Alors on fait des commentaires enfin, bon, on fait des commentaires en disant ah ben Jésus voulait tester. Voilà, il voulait tester qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Il voulait que l'autre avoue son dénuement, je ne sais pas quoi. Pas du tout. Jésus se présente comme l'un d'entre nous. Je ne savais pas. Et comme il ne savait pas, ben, l'autre lui a dit ce qu'il voulait vraiment. Je voudrais recouvrir la vue. Comme c'était un mendiant, on ne savait pas si en fait il ne voulait pas du fric, comme m'a dit un jour une dame qui disait ça pour la première fois. Voilà, donc Dieu a choisi les choses faibles et folles pour mettre de côté les choses qui ont de l'apparence. C'est ça le renversement des valeurs, c'est le premier point. Donc la deuxième chose, c'est que nous admirons, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre tout à l'heure, en quoi la personne est belle dans son dénuement. Malgré tout, elle est là. Malgré tout, elle a son courage. Voilà. Il n'y a pas de contrainte. Et puis, dans la foi, nous nous en remettons à plus grand que nous. Et nous disons, oui, Seigneur, affermis l'œuvre de nos mains. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on peut. Comme disait le texte, quand vous aurez accompli tout ce que qui vous a été commandé, dites, je suis un serviteur ordinaire. En fait, ce n'est pas très souvent qu'on peut dire ça, parce qu'il dit, quand vous aurez accompli tout ce qui vous a été commandé. C'est rare qu'on accomplisse tout. Voilà, et puis nous faisons briller les autres, nos compagnons de service, ça c'est très important. La foi nous permet de vivre l'épreuve dans la confiance, elle nous permet d'offrir notre silence. Vous savez, ces textes de l'Ancien Testament, nous t'avons attendu pendant la nuit. Voilà, le croyant, il est habitué au fait qu'il y a parfois des nuits. Il y a même ce qu'on a appelé la nuit de la foi chez les grands mystiques. Donc voilà, il ne faut pas penser que parce que je donne un bon programme qui va nous rendre plein d'assurance, non, nous aurons aussi à traverser, mais celui qui a la foi, il sait que c'est comme ça. Et notre Sauveur, le Seigneur, il a traversé aussi des moments comme ça, des moments d'angoisse, des moments où le cœur battait fort, comme il dit, voilà. Et puis la foi nous permet de faire que notre vie devienne une offrande, voilà. Elle est offerte. Renoncez, ne vous conformez pas à ce siècle, transformez vos pensées, ce que je viens d'expliquer, le changement des valeurs, le renversement des valeurs, et offrir vos corps, votre vie, en offrande à Dieu, ce sera votre culte. Voilà, mission intégrale. Ça va faire partie de votre culte. Et puis, la foi nous permet d'offrir l'identification à Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas cité, vous allez me dire, le verset crucial, quoi, quand on parle de l'aide au prochain, c'est le fameux verset où tout ce que vous aurez fait à l'un de ses petits, et ben, c'est à moi que vous l'avez fait, Matthieu 25, voilà. Même un verre d'eau froide ne perdra pas sa récompense, enfin, voilà, donc
tous les gens auxquels Jésus s'adresse dans cette parabole des chèvres et des chèvres et des moutons, hein, voilà. Les gens, Jésus leur dit, ben voilà, venez, venez, bénis mon Père, car vous avez secouru le pauvre, les gens en prison, les gens malades, les gens nus. En fait, c'est quoi qu'on a fait? Ils ne sont pas sauvés par leurs œuvres. Ils n'ont pas fait pour les œuvres, puisqu'ils ne savaient même pas. Vous savez ce qu'on a appelé les justes pendant la guerre, qui ont sauvé des juifs. Bah, on est venu les récompenser après. Ah bon? Ah bon, ça mérite une récompense, mais je fais ce qui me semblait normal tous les jours. Voilà. C'est ça, la véritable justice selon Dieu. Et ça nous offre cette identification à Jésus, parce que tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et nous voyons alors dans chaque être humain que nous. Ceux qui parmi vous voilà, s'occupent des enfants, s'occupent des handicapés, s'occupent des malades, s'occupent des pauvres, font des visites à l'hôpital, voilà, tout ce qui vous vient tient à cœur. Mais dans chaque visage, vous voyez le visage de Jésus. Oui. Oui, l'amour divin, ce n'est pas uniquement la philanthropie, elle est transcendée par la vision de Jésus.
Voilà. Et puis nous, ça ne va pas nous rendre supérieurs, parce que l'évangile de Luc nous dit que nous devons garder dans tout ce que nous faisons l'estime pour les gens du monde. Parce qu'il nous dit, les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. On pensait qu'on était quand même mieux dans la relation avec les autres. Et Jésus veut nous dire, prenez exemple. Souvent, ils sont plus avisés. Donc, il n'y a pas d'esprit de supériorité par rapport à la foi, au nom de la foi. Ça nous permet de travailler en réseau avec les autres. Oui, possible. Je n'ai pas obligé de créer une association chrétienne. Nous, on a fait ça, mais on travaille en réseau avec des non-chrétiens, avec l'estime. Et nous, on est soutenus par la foi. La foi qui nous permet de surmonter des obstacles. Il va falloir se donner du mal. Se donner du mal. C'est vrai. On a besoin d'être plusieurs. On a besoin de partager ce qu'on vit. Parce que des fois, c'est fatigant. Jésus, il a partagé ses disciples. Voilà, plusieurs fois. Partagé ce qu'il a vécu. Puis il a dit à ses disciples de venir partager avec lui. Quand il rentrait de mission. Voilà, il les a pris un peu à l'abri. Parce que se rendre proche des autres, ça nous renvoie aussi quelque chose de difficile sur nous-mêmes. Voilà. Parce que des fois, les autres n'ont pas de protection. Et on parle de quelque chose cache, que nous, on a l'habitude de cacher. Vous voyez ? D'accord ? Ça vous va ? Donc, ça nous révèle un petit peu ce que nous sommes. Donc, on a besoin de se soutenir les uns les autres, se donner du mal. Va dans les chemins, dit la parabole. Va chercher ceux qui ne sont pas encore rentrés. Donc, il faut aller dans les chemins. Voilà. Et puis, on va être confronté à l'apparent échec. Donc, dans la foi, nous pouvons être soutenus par le fait que Jésus, il a vécu un apparent échec. D'accord. Mais à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré. Voilà. En conclusion. Une ville bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Tout ce que vous aurez fait, ce que nous aurons fait, fera trace. Dieu s'en occupe. Voilà. Des fois, on a la joie de voir un résultat que Dieu nous accorde de voir, mais une vie située sur une montagne ne peut pas être touchée. C'est la promesse inébranlable de Dieu. Deuxièmement, nous allons vivre des rencontres. Et je pense que vous avez déjà remarqué, peut-être même qu'il y a longtemps que je n'étais pas venu ici. Voilà. J'ai peut-être déjà dit ici et ailleurs. Comment ça se fait que l'évangile ne conclut jamais? Disait Jacques Ellul. Comment ça se fait que l'évangile ne conclut jamais? Il n'y a jamais de conclusion. Il y a des histoires dans la Bible, il n'y a pas la conclusion. Ce n'est pas des fables de la Fontaine. Donc, il n'y a pas la morale de cette histoire. Voilà, vous êtes d'accord? Que sont devenus les gens que j'ai pu rencontrer? Vous savez? Tous ces gens qui ont été guéris, ces gens qui ont été rencontrés, ces gens. Qu'est devenue la femme samaritaine, hein? Elle est allée témoigner à ses amis, mais après, elle a fait partie des premières églises. Enfin, ça a duré, ça n'a pas duré. Enfin, on a trop le savoir. Qui c'est qui a fait partie, à part les 12 et puis quelques autres là, qui ont fait partie de la première communauté, mais tous les autres que Jésus avait rencontrés,
c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile, il est raconté comme une succession de rencontres. Voilà. Et donc, ça doit attirer notre attention sur le fait que l'évangile, c'est la rencontre. Voilà. Jésus, tous les textes sont centrés sur ces rencontres, avec parfois beaucoup de détails, parfois moins. Il y a aussi des moments avec des foules, mais c'est la rencontre. L'évangile, c'est pas une doctrine, l'évangile, c'est des rencontres. Alors, mes amis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous l'envoie.